Boomerang avec l'acteur Jérémy Régnier ce matin. C'est parti. Une remarque sur la domination, quelle qu'elle soit, sociale, culturelle, politique, sexuelle, symbolique, elle apparaît dans toute sa splendeur, la domination, quand elle est menacée, quand elle est défiée. Et c'est intéressant parce que sans ces remises en cause, parfois on la voit même plus, qu'on l'exerce ou qu'on la subisse d'ailleurs. C'est comme si on l'avait intériorisée, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, ça coule de source. Avec le temps, on peut même faire semblant que ça n'existe pas. Mais les livres féministes, par exemple, qui suscitent un intérêt certain en librairie, sont remarquables aussi par les réactions qu'il provoque. Mâle blanc en PLS, crise de la civilisation, fin du monde annoncée, on entend ça partout, tout le temps, et on a rarement vu aussi belle réaffirmation d'une domination. En fait, quand on y réfléchit, c'est l'arroseur arrosé. On pousse des cris d'orfraie, on part en Godwin Point, on hurle sa bonne foi tant et si bien que tout le monde n'entend plus que ça, et qu'on a réussi en deux temps trois mouvements à faire taire les voix dissonantes, et donc à prouver ce qu'on essayait de cacher, à savoir sa domination. Une remarque et un conseil pour rester dominant, rester discret. Et taisez-vous, quand vous êtes défié, vous risqueriez de vous faire piéger.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang que domine. Mon invité d'aujourd'hui, les comédiens, mais aussi réalisateurs, son nom et son visage sont associés depuis ses débuts au cinéma, aux Frères Dardenne, à Bertrand Bonello, à François Ozon. Dans deux semaines, il sera à l'affiche de Slalom, un très beau premier film de Charlène Favier. Il y incarne un prof de ski qui abuse de son autorité et de son emprise avec la jeune élève dont il entend faire une championne. C'est un film subtil, très maîtrisé, assez nécessaire. Bonjour Jérémy Régnier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Oui, merci de m'avoir invité.
Vous en faites quoi, vous, de vos dominations?
Ah, je les cache sous l'oreiller. Non.
Vous en avez conscience, au moins.
Oui, forcément, on en a tous une part de conscience, une part inconsciente. Maintenant, je pense qu'elle se maîtrise.
Quand vous réalisez, quand vous jouez dans votre métier, vous les voyez surgir, vous les voyez apparaître?
Ben oui, c'est un métier qui forcément pousse à ça. Pour certaines personnes, mais même du côté des techniciens. Ça m'est déjà arrivé de voir des techniciens qui prenaient une forme de pouvoir sur l'autre, sur d'autres petits techniciens. Et du coup, c'est très difficile, même en face, de savoir comment réagir. Est-ce que je participe? J'écoute? Si j'accepte, c'est une façon de participer? Ou alors je refuse, mais en même temps, ça appartient à quelqu'un qui est en face de nous. Donc voilà, la position est un peu particulière, mais je sais que moi, c'est quelque chose qui... L'injustice et le fait de prendre le pouvoir me fait du mal.
C'est intéressant parce que ces systèmes de domination, on y est tous confrontés, on est au pire complice, au mieux concerné. Et dans votre film, ça apparaît très clairement. Votre personnage, dans Slalom, est une incarnation de l'autorité, parfois brutale. Pour autant, il n'apparaît pas d'emblée comme un agresseur. A priori, il n'en a pas le profil. Quel est-il son profil, puisque vous l'incarnez?
Mais je pense que c'est un coach, donc par coach, il faut qu'il soit derrière ses élèves, qu'il les pousse, qu'il les stimule. J'ai eu la chance de pouvoir en rencontrer pour le tournage, justement. Et c'est entre douceur, entre câlins, parce que c'est des enfants encore, et qui sont promus ou qui sont censés atteindre les sommets professionnels, aller aux Jeux Olympiques ou autres. Donc, il faut stimuler cet enfant et en même temps, l'écouter, etc. Après, donc ce personnage, lui, est à cet endroit-là. Et il découvre en fait une gamine qui a un potentiel de fou. Il se voit, il se rêve à travers elle. Une gamine qui est une guerrière et en fait...
Le problème, et on le comprend très vite, c'est qu'il bascule. Dans quelle mesure il faut comprendre le personnage qu'on interprète, Jérémy Régnier?
Ça a été très long pour moi parce que justement, j'ai dû en parler longtemps avec Charlène, la réalisatrice, pour savoir comment je me situais.
Ben oui.
En tant qu'homme... En tant que personnage, pour pouvoir forcément l'interpréter, à un moment donné, il faut l'humaniser. Et c'était aussi important de ne pas être dans un schéma entre la victime et le bourreau.
Ça veut dire qu'il faut l'aimer.
C'est plus complexe. Aussi. Je sais pas si l'aimer, en tout cas le comprendre pour l'interpréter. Et après, le pire, c'était moi de me dire, tiens, moi, en tant qu'homme, est-ce que j'accepte de participer et de reproduire ça, ce schéma-là, devant un écran, donc de l'ingérer et puis de le montrer. Et c'est là où il fallait que je sois avec Charlène bien précis et d'être sûr de ce qu'elle voulait pour être moi en accord aussi. Quoi.
Alors c'est très intéressant. Évidemment, ce personnage qui n'a pas le beau rôle, il vous a forcément appris quelque chose de vous, en fin de compte. Je suppose qu'on apprend toujours quelque chose sur soi quand on incarne, quand on joue Jérémy Régnier.
Oui, après, je pense que ça se passe aussi à l'intérieur. Je pense qu'on ne maîtrise pas tout. Il y a des moments où je traverse des personnages et il y a un travail qui se fait à l'intérieur, mais je ne l'intellectualise pas tout de suite.
Mais le film ne sort pas à n'importe quel moment aussi. C'est un film qui met en scène un tabou sur lequel le mouvement MeToo a permis de lever le silence. Quel sens est-ce que ça a pour vous, particulièrement aujourd'hui? Et là, je parle autant aux spectateurs, aux citoyens, à l'homme, au dominant.
Non, je pense que c'est très important. Je pense que Charlène ouvre un sujet qui est déjà là, mais elle le complexifie un peu. En fait, elle ouvre le débat, en fait. Et la place de l'homme, quelle est-elle face à ça, ou la femme, par rapport au fait d'être dominant, d'être victime, d'être bourdon. Je trouve que, justement, elle déplace le schéma pour comprendre exactement qui il y a derrière le bourreau.
C'est une fonction du cinéma, ça, de nous faire ouvrir les yeux, tout simplement.
Je sais pas, ouvrir les yeux, mais en tout cas d'avoir encore une fois un débat là-dessus, de pouvoir en parler en fait. Et le fait de pouvoir en parler peut débloquer des choses et de se dire tiens, mais ok, en fait on en parle et du coup, moi j'ai ma réflexion, je comprends des choses. C'est dès qu'on sclérose les choses, qu'on s'interdit d'en parler, que ça devient compliqué, je crois.
La première fois, Jérémy Régnier, que vous avez vu un film qui a débloqué quelque chose, justement de la parole, du dialogue, vous vous souvenez ce que c'était?
Comme ça, j'en ai vu tellement.
Quand vous étiez petit, je suppose.
Ouais, mais c'était plus. Moi, je les voyais seul, les films. Parce que mon père, j'ai eu la chance d'avoir un père qui enregistrait plein de films en vidéo, en VHS.
Ah.
Et oui, je suis vieux. et du coup, en fait, je me faisais tout seul des découvertes cinématographiques. Et donc, c'était très personnel. C'est-à-dire que tout d'un coup, je découvrais l'odeur de la papaye verte. J'avais 10 ans et tout d'un coup, je le prenais. Et c'est pas quelqu'un en plus qui m'avait dit tiens, regarde ce film. Donc la sensibilité, ce que j'ai découvert à travers les films, je l'ai gardé en moi en fait, je n'ai pas dû la débattre.
En tout cas c'est intéressant parce que les rapports de domination, le besoin de contrôle, vous les avez explorés plus d'une fois en tant que comédien, et c'est pour ça que je commence l'émission comme ça. Je pense par exemple à des films aussi divers que L'Amant double de François Ozon, Possession d'Éric Guirado, ou même à Clo-Clo dans une moindre mesure. Il se trouve que vous y êtes aussi penché en tant que réalisateur avec votre frère dans Carnivore. Par quoi est-ce que vous vous laissez dominer, vous? Parce que j'étais intéressé quand vous disiez « on contrôle pas tout ».
Mais en fait, je pense que c'est important, encore plus en tant qu'acteur, c'est que j'ai, et en vieillissant, je me retrouve dans des situations où je suis en face d'un réalisateur qui, d'une manière ou d'une autre, et ce qui est normal, veut me dominer. Parce que c'est sa position, parce qu'on est un objet d'une certaine manière à sa création.
Objet du regard et puis c'est une position d'autorité.
Voilà, mais c'est différent en fait. Avec le temps, j'en suis conscient et donc j'accepte le jeu. Et ça, c'est différent. D'accepter d'être manipulé, c'est une fausse manipulation. Alors qu'on rentre dans le jeu, je sais où je mets les barrières, je sais où je peux aller, jusqu'où je peux aller. Alors ça peut être un jeu dangereux, mais ça m'est arrivé il y a peu de temps. Et au contraire, justement, c'est très intéressant d'accepter de le partage et d'aller vers... Parce qu'on est tous humains qu'on est, on est différents avec...
Mais il y a un moment où on dit non, quand même.
Il y a un moment où, bien sûr. Et ça, je l'ai vécu, moi, jeune. C'était un film, je ne dirais pas, parce que voilà. Mais j'avais 19 ans et j'avais en face de moi une metteuse en scène très caractérielle et qui, tout d'un coup, m'a pris en grippe. Et elle m'a dit, voilà, tu marches pendant une heure, parce qu'elle trouvait ma démarche ridicule. Elle me faisait faire des allers-retours pour m'humilier. Et vraiment, j'avais 19 ans, et je me suis dit, mais c'est affreux, elle m'interdisait de parler à l'équipe et tout. Et je me souviens vraiment, je me suis dit, aujourd'hui, après ce que j'ai vécu là, je ne me laisserai plus jamais faire. Vraiment. Et puis après, donc du coup, j'ai eu une construction où dès qu'on venait m'imposer quelque chose, etc., c'était... hypodermique, quoi. C'est-à-dire que je ne supportais pas ça, donc je partais dans l'autre sens.
Celle qui a des réactions épidermiques dans cette émission, alors pas pour le meilleur, hein, souvent pour le pire, peut-être que vous la connaissez, Jérémy, c'est la culture, qui perd les pédales, elle, complètement. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 20 octobre?
Ce 20e prix, Marcel Duchamp.
Merci beaucoup.
Mardi, Fleury, l'artiste canadienne installée à Paris, Kapwani Kiwanga, a reçu hier le prestigieux prix Marcel Duchamp 2020. Elle est récompensée pour Flowers for Africa, une série qui propose un regard engagé et inédit sur les luttes d'indépendance des pays du continent africain à travers des compositions florales. En tout, 13 œuvres qui invitent à réfléchir au temps, à l'histoire, aux notions aussi de monuments et de commémorations. Une installation ethnobotanique à découvrir au Centre Pompidou jusqu'en mars. C'est classe.
La patience est un plat qui se mange sans sauce.
Aussi insaisissable que le Graal, la sortie du film Kaamelott, adapté de la série culte d'Alexandre Astier, est encore une fois repoussée, mais cette fois sans aucune date précise. C'est la troisième fois que le long métrage est décalé, après avoir été prévu pour cet été, puis pour novembre. Une malédiction à la Don Quichotte de Terry Gilliam. Côté bonne nouvelle, Miss de Ruben Alves et Adieu les cons d'Albert Dupontel font de la résistance et sont maintenus au programme. On en reparle demain, évidemment. Radio à gogo, c'est la grande mode cet automne chez les musiciens. Après Bob Dylan et le duo britannique Bicep, c'est au tour du groupe Gorillaz de lancer sa propre émission de radio. Dès aujourd'hui, la formation anglaise propose le Song Machine Show, un programme animé à tour de rôle par Deon Albarn et ses acolytes. Sélection de musique, discussion décontractée, invité de prestige. L'émission est à découvrir sur Apple Music, de quoi ravir les fans avant la sortie de l'album le 23 octobre prochain. On n'est pas bien, là. Et enfin, Cognac qui claque, le festival du Polar de Cognac vient de décerner sa fournée de récompenses 2020, 8 au total. Et cette année, côté cinéma, c'est notamment le long métrage Hors du monde de Marc Fouchard qui a remporté le Grand Prix. Tandis qu'en littérature, c'est le thriller familial Sauve-la de Sylvain Forge, paru chez Fayard, qui a reçu le prix du meilleur roman francophone. Voilà de quoi faire frissonner nos longues soirées confinées. Olé! Et le comédien Jérémy Régnier, invité de Boomerang ce matin pour ce film Slalom, premier film remarquable à mon avis en salle dans deux semaines. Un film dans lequel vous jouez un entraîneur, ex-champion de ski, où le corps et la performance occupent une place centrale. En quoi ça parle à l'acteur que vous êtes, ça?
Parce que pour moi c'est primordial en tant qu'acteur d'utiliser le corps comme un outil aussi. C'est-à-dire que c'est pas que l'intellect, c'est pas que la réflexion sur un personnage qui passe donc par une réflexion intellectuelle, mais pour moi c'est un appui aussi corporel, c'est-à-dire que de changer de poids ou autre, une démarche, un regard, comment le corps réagit par rapport au personnage qu'on doit interpréter.
Il arrive que ce soit le point de départ même.
Ça peut arriver, ouais, que ce soit tout d'un coup une idée de démarche, un regard, un balancement, comment un personnage marche, comment un personnage s'assoit, comment il se déplace. Et puis,
par exemple, pour Clo-Clo, vous avez fait comme ça?
Ah, pour Clo-Clo, c'était encore différent parce que je devais m'appuyer sur quelque chose qui était existant, donc des documents, et puis de me le réinterpréter et l'encaisser, et puis de le transformer, et puis accepter aussi. Il y a un gros truc avec Clo-Clo, c'est justement d'accepter qu'à un moment, je ne pouvais pas tout maîtriser.
Oui.
Je ne pouvais pas être en fait lui, quoi. J'avais le fantasme de pouvoir être totalement Claude-François Mélan. Ça ne passait que de toute façon par moi aussi.
Ça arrive qu'il vous lâche ce corps, qu'il vous échappe, justement? Souvent.
Ouais, oui. Et puis en plus, en ce moment, j'ai enchaîné des films dont Slalom, qui est un sujet intense, un personnage dur et complexe à vivre, à traverser, parce qu'il y a une vraie traversée quand tu rentres dans un personnage. Et je les ai enchaînés comme ça, j'en ai enchaîné 2-3. Et je dois dire que j'avais le sentiment de devoir me laver, en fait. Et donc j'ai fait un truc qui s'appelle du lavage cellulaire. Où en fait, tu laves, en fait, entre guillemets, toute ton énergie, toutes des blocages d'énergie.
Je pense que je vais le faire parce qu'avec les invités de Boomerang, j'en ai plus que besoin. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous jouez, Jérémy?
Ah, c'est très, c'est parfois du bonheur, parfois c'est très dur. On se rend pas compte, mais tu le vois encore plus quand t'es metteur en scène ou quand t'es sur un tournage où il y a un acteur qui vient pour un ou deux jours. C'est violent, c'est très violent parce que tu dois arriver dans une équipe qui se connaît, plaire à un réalisateur, interpréter ton rôle au mieux possible sans maîtriser tout, avec ce que tu as vécu la veille, avec ce qui se passera demain. Donc c'est souvent violent en fait.
Il y a peu de
moments en fait où on est heureux et on se dit waouh, c'est génial. Et j'ai des souvenirs moi plus jeune, maintenant ça s'est calmé, mais où je répétais une séquence, même deux semaines après, alors que c'était fini, on ne pouvait plus la retourner, mais je la répétais dans ma tête en me disant « Ah putain, j'aurais dû la faire comme ça !»
Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la performance. Qu'est-ce que c'est une performance d'acteur?
Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être tellement de choses, parce qu'une performance peut être hyper subtile, sans justement vouloir montrer ou démontrer, être dans la délicatesse, dans un battement de cils.
C'est quelque chose dont il faut se méfier. A priori, c'est ce que vous dites.
Oui, et après on a l'inverse, des acteurs américains qui ont fait des caisses et on adore ça aussi. Donc je pense que c'est le plaisir et la jouissance et l'accepter aussi. Accepter vraiment de se dire, voilà, en fait je suis totalement en accord avec ce que je suis en train de jouer.
Vous me faites penser à ça, là.
Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Tu vois ?
Oui.
Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire deux, trois choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt ? Tu es bien concentré ?
Oui, bien.
Tu sais que ton père est... T'es avec le petit pompiste avant ? Non, ça ne doit pas t'étonner.
D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est...
Oui, c'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner.
D'accord.
Là, tu imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste.
Oh,
ah ben voilà, comment tu recommences.
Tu n'avais pas un autre exemple
plus... ah, ben non, mais c'est un exemple autre... saisissant.
D'accord, mais celui-là, il est saisissant.
Alors, tu te reconcentres.
Ok. Allez-y, là, parce que je le...
Non, je te dis rien, c'est ça qui doit t'étonner. J'ai senti un petit étonnement dans ton nom.
Bon, non, ça m'étonnerait, là. J'ai fait comme vous m'avez dit, là.
Jean-Paul Belmondo, Richard Anconina, dans Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch en 1988. C'est vous qui l'avez choisi cette scène, Jérémy Régnier. Mais avant toute chose, qu'est-ce qui ne manque jamais de vous étonner? Vous?
La vie. La vie m'étonne à chaque fois. Hein. On peut en être conscient encore plus aujourd'hui qu'avant. Je trouve que voilà, la vie est étonnante.
Qu'est-ce qu'elle dit au fond, cette scène, de ce que c'est qu'un acteur? Parce que c'est un coaching d'acteur que se livre le personnage de Belmondo, en fait.
Oui, et puis surtout qu'on sait, vu que c'est le travail de Lelouch, c'est que c'est de l'improvisation. Et tout d'un coup, d'avoir cette candeur, cette force que Belmondo a en face d'un Anconina qui était un jeune acteur à l'époque, je trouve qu'il y a une forme de douceur, de respect. Ça raconte exactement la bienveillance et en même temps la manipulation. Enfin, il y a plein de choses qui se et puis c'est drôle, ça me fait énormément rire. Et puis Belmondo est un acteur qui m'a apporté toute mon enfance, qui je pense est l'acteur qui m'a amené à faire ce métier.
Qu'est-ce qui vous fait rêver chez lui, parce que c'est un terme que vous employez quand vous parlez de lui?
Ouais. Son panache, sa liberté. Voilà, j'ai l'impression qu'il était libre de faire ce qu'il avait envie, d'être qu'il avait envie. De partir dans des films d'action, de films d'auteur un peu plus intimes. Voilà, moi, j'ai un énorme respect pour ce monsieur.
Et en tant qu'acteur, qu'est-ce que vous avez eu l'impression d'apprendre en le regardant, ces films?
Ah, je sais pas, parce que je pourrais pas m'imaginer être Belmondo, mais cette ganache, cette force, cette liberté, cette façon d'y aller, de n'avoir peur de rien. Je pense que la peur est un frein pour tout, et quand t'as pas peur, t'avances tellement mieux. Donc voilà, c'était quelqu'un qui me donnait.
Ce qui me touche quand même, c'est la façon dont vous associez encore aujourd'hui, dans cette carrière qui est quand même longue, le cinéma au rêve. Qu'est-ce qui vous fait rêver encore aujourd'hui, Jérémy Régnier?
Les rencontres humaines. Vraiment, je me rends compte plus le temps passe, c'est pas le résultat d'un film. Bien sûr, s'il marche, s'il rencontre un public, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce que je me rends compte, parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc le seul endroit où, en fait, je peux prendre conscience et être heureux, j'ai l'impression, c'est le moment présent, et donc c'est le moment où je suis avec des humains, un réalisateur, des acteurs ou pas autour de moi, ou des techniciens, et tout d'un coup, ce moment-là devient précieux, parce qu'on le vit ensemble, et voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui me fait le plus rêver aujourd'hui.
Bon bah là, j'ai envie qu'on rêve tous les deux, du coup, ce matin, si vous le voulez bien, en écoutant la voix de quelqu'un qui nous fait rêver tous les deux, en l'occurrence celle de Jacques Brel, en 1968, qui chantait La Quête et le rêve, justement. Vous êtes sur France Inter avec Jérémy Régnier, vous écoutez Boomerang, évidemment.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désir. des espérances et puis lutter toujours sans question ni repos, se tanner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible. Et toi,
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Je vais vous dire, c'est simple, il a quelque chose de l'être de lumière de la série hollywoodienne, vous savez, quelque part entre Dawson et Léo dans Charmed. Mais derrière sa blondeur champ de blé, son œil bleu des mers du Sud et son sourire de jeune promis, on sent poindre d'étranges aspérités, une profondeur, une petite noirceur, capable du pire comme du meilleur. Quand il vous regarde, il fait un petit peu peur avec son écharpe blanche non assortie à son masque bleu. L'imprévisible, Jérémy Régnier, invité de Boomerang pour Slalom, ce premier film de Charlène Favier. Et dans ce film, il y a une phrase de votre personnage qui m'a marqué. Il dit que ce qui fait un grand champion, c'est qu'il n'a pas peur. La peur, ça représente quoi pour vous ?
Mais c'est, je travaille pas mal là-dessus. Je me suis rendu compte que la peur... alors, je veux pas faire... C'est toujours compliqué, parce que quand on pose des questions... un acteur ou un invité, on a toujours l'impression d'avoir des grandes phrases. Donc moi, je dis que ce que je ressens et ce que je pense, mais
c'est pour ça que je dis pour vous. Hein.
Voilà. Mais moi, la peur, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est un frein monumental pour tout. Mais en fait, et pour l'amour, pour la vie, pour le professionnel, pour tout, en fait, j'ai l'impression qu'on a tous peur et c'est normal. Il faut aussi des endroits où il faut se réfréner pour ne pas aller droit dans le mur. Mais plus on la met de côté, plus on se rend compte que, en fait, elle est très facilement franchissable et on se rend compte que, du coup, derrière, il y a un boulevard.
Et vous aviez peur quand vous avez commencé très jeune, à 15 ans, chez les frères
d'Ardennes? Non, justement, j'avais pas peur. Et c'est pour ça que je pense que, où j'avais pas conscience de la peur. Donc, j'y allais totalement, avec une forme de folie parce que je me rendais pas compte d'où je partais. Et au fur et à mesure de vieillir, en fait, on a peur. Parce qu'on a peur de perdre, on a peur de se tromper, on a peur de plein de choses. Et c'est ça qu'il faut, en fait, réapprendre à enlever, quoi.
Quel genre de garçon est-ce que vous étiez à 15 ans?
J'étais plutôt timide, je faisais pas mal de conneries, j'étais un ado pas facile, je pense, pour mes parents. Et mais j'ai eu la chance d'avoir un rêve et d'y toucher et d'y avoir accès et ça m'a permis de passer entre les balles et d'avancer, en fait.
Les balles, c'est des mauvaises rencontres?
Oui, ou on peut être pour soi-même une mauvaise rencontre. Donc, je faisais le tri entre qui j'étais, qui je rencontrais et mes actions. Et aujourd'hui, j'ai toujours eu une étoile. J'ai l'impression de toujours avoir une étoile qui me permettait de me dire, OK, ça c'est le cap qu'il faut que sur lequel je peux m'appuyer. En fait.
C'est la quête. Voilà. Jacques Brel. La caméra, c'est un objet qui peut faire peur.
Oui, ça peut faire très peur. Et même sur des gens très puissants, forts et tout ça, tout d'un coup, on met une caméra, ils perdent totalement leurs moyens, puis d'autres, où sans caméra, ils n'existent pas. Donc, et puis ça dépend des metteurs en scène. Les Dardenne, ils vont dire, oublie totalement la caméra, la caméra n'existe pas, elle doit disparaître de ton regard et tu vas faire tout comme si elle était transparente. Et puis d'autres, où au contraire, te demandent de jouer avec la caméra, t'appuyer dessus. Donc à chaque fois, c'est encore.
Et vous faites quoi? Quand est-ce que vous avez commencé à la manier déjà, la caméra?
Ouais, au fur et à mesure, j'ai appris sur le tas. J'ai appris en grandissant, en rencontrant des metteurs en scène. Donc, j'ai appris en essayant, en me trompant. Et puis tout d'un coup, je voyais ce qui marchait. Puis en regardant d'autres acteurs, je me dis ouais, ils appuient, ils font comme ça.
C'est là où vous vous sentez à votre place, Jérémy Régnier, derrière la caméra?
Je me sens à ma place devant aussi. Je prends beaucoup de plaisir à être acteur, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'accomplissement derrière et d'intime sur un projet, sur une création qui est pas la même quand on est acteur.
Et puis on peut mieux contrôler.
Et on peut mieux contrôler.
Ah ouais. Mais cela dit, est-ce qu'on a moins peur quand on a le contrôle ?
Non, non, c'est bien plus... Ça peut faire bien plus peur, parce qu'on peut encore plus se tromper, on n'est plus mis au centre, et puis on peut... Voilà, c'est une autre position. Mais je trouve que ce qui est très agréable, c'est de découvrir plein de choses différentes, d'avoir la chance de pouvoir découvrir plein de choses.
Comment vous expliquez que ce soit plutôt devant la caméra que derrière, que vous soyez réalisé à ce jour ? Après tout, vous n'avez réalisé qu'un seul long métrage.
Ouais. Ben je sais pas, non, c'est une impression personnelle profonde où tout d'un coup quand je me suis retrouvé à cette place-là avec mon frère pour mon premier film, je me suis dit mais c'est comme si tout m'avait ramené en fait vers ce moment-là, toute ma vie, tous mes choix, etc. Tout d'un coup c'était comme si j'étais enfin à ma place.
Vous savez que, de toute façon, dans cette émission, comme disait mon ancienne programmatrice Valentine Chedebois, il n'y a pas de place pour la peur.
Il n'y a pas de place
Jérémy.
Pour la peur.
Jérémy, ah bah vous pouvez le dire, effectivement. Alors je vous propose de vous lancer sur un texte écrit par l'un de vos amis, qui s'appelle Zeynel Lassi,
oui.
Qui est belge, albanais, écrivain, poète, anciennement fritier, m'avez-vous dit.
Exactement.
Et c'est sa vie qui fera l'objet de votre prochain film, je crois.
Exactement. Donc voilà, c'est un peu une lettre, une déclaration à son père qui est parti.
Vous lancez le son ?
Je lance le son. Aujourd'hui, je veux être libre. Libre d'être tout ce que j'ai aimé. Je veux être Dostoïevski, Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, Samuel Beckett, Camus. Je veux être une sonnette de Rickel, une note de Bach, le bateau ivre. Je veux être le mur des Pink Floyd, un danseur de Pina Bausch, un personnage d'un film de Cassavetes, la dernière nuit de Janis Joplin, Bruce Lee. Je veux être un battement d'aile, un souffle, une émotion. Je veux être le goût des choses, une caresse, un espoir. Je veux être surpris, ému, réjoui. Je veux être un commencement, un horizon, le silence. Je veux être Garance dans Les Enfants du Paradis quand elle dit « Moi, la liberté, j'adore ça !» Je veux être un clochard, le sang de la rue. Je veux être un dictateur pour comprendre le mal qu'on peut faire. Je veux être un sniper quand il récite une prière avant de buter quelqu'un. Je veux être un prêtre, un imam, qui compare une étoile au verbe aimer. Je veux être un regard, celui de mon père quand il disait « Pour réaliser ses rêves, il faut tout quitter et affronter ses peurs. Il m'en aura fallu du temps pour le comprendre, une éternité. »
Les mots magnifiques de Zeynel Lassi, lu par son ami Jérémy Régnier sur le Summer One, l'été de Vivaldi revisité par Max Richter. Qu'est-ce que vous voulez être, vous, Jérémy? Bah, vous pensez bien que j'allais vous poser la question.
Qu'est-ce que je veux être?
Ouais.
Bah, ça me parle, plein de choses à la fois, et en même temps, moi.
C'est difficile d'être soi.
On aspire à ça. Plus on vieillit, plus on apprend à se connaître, et plus on se rend compte qu'on découvre des parties de nous qu'on ne connaissait pas.
Plus on joue aussi, plus on joue d'autres personnages, d'autres moi.
Ouais, mais quand même, d'arriver à être soi le plus possible, c'est quand même pour moi la quête ultime.
L'inaccessible étoile.
Ouais.
Merci infiniment.
Merci à vous, merci
d'être
beaucoup.
Venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Slalom de Charlène Favier, avec la formidable Noé Habitat, Marie ouais. Denarnaud aussi, entre autres, sort le 4 novembre. Alors, c'est vraiment un grand film de cinéma, et ce sera surtout encore toujours l'occasion d'y aller au cinéma le 4 novembre. Slalom, tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, juste après ça.
I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. You watch on your mind, and then I wouldn't think it's
wish I could read your mind.
I don't know if you want me to come over. Something that I'm used to. I give too much, but I choose to. And you love that. Yeah, you love that. I don't know what you have been through, but I work too hard not to lose you. And you know that. Yeah, you know that. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask. Really, I should know better. I don't know if you want me to come over. To come over, don't wanna ask. Really, I should know better. I don't know if you want me to come over.
Come over, Georgia Smith et Popcane sur France Inter.